6h02, nous sommes mercredi 5 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, de la pluie intermittente ou de la bruine, c'est ce qu'on connaît depuis quelques heures et ça devrait cesser au cours de l'après-midi. Ça demeure nuageux par la suite et le maximum aujourd'hui, 15 degrés. Ce soir et cette nuit, probablement encore un peu de pluie et ça va se dégager demain matin, jeudi, avec des températures autour de 15 degrés, donc assez stable. Et on termine la semaine avec du soleil et 16 degrés. Donc, on prévoit un beau vendredi. Par contre, ça peut se gâter en soirée. Et samedi, ça risque d'être davantage nuageux, peut-être un peu de pluie. Alors que pour la fête des mères, jusqu'à maintenant, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Avant de parler de vaccination, revenir sur ces cas de violence conjugale. On vient de parler de ce procès à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans la presse, ce matin, il y a une histoire absolument incroyable d'une femme qui a demandé justement qu'elle puisse s'identifier. On a levé les interdits. Elle s'appelle Brigitte Jobin. Et elle a été agressée. C'est la victime de Jody Matthew Burke. C'est un gars de 45 ans. Elle est dans la mi-trentaine. Et c'est un long procès qui a culminé. Et finalement, donc, le gars a été reconnu coupable. Elle a été battue, étranglée, menacée de mort avec un couteau, violée. Et c'est une histoire extrêmement troublante. D'abord parce que c'est un gars qui avait des antécédents de violence, qui était inscrit au registre fédéral des délinquants sexuels, et disons qu'il a caché pas mal son passé. Deux ou trois exemples ou détails que je peux vous donner sur cette histoire-là ce matin. D'abord, il faut voir la photo du gars. Là. C'est un spécialiste des arts martiaux. Il a l'air d'un culturiste. C'est quelqu'un qui a joué avec le système en étirant les procédures, congédiant des avocats. Mais Mme Jobin a vécu une relation avec lui pendant 6 mois. Ils étaient au même gym ensemble. Lui arrivait de Colombie-Britannique. Elle se présente comme une femme de caractère. Et là, elle remarque qu'il porte un bracelet GPS à la cheville. Puis lui, il explique que l'histoire du passé, de gang en Alberta, puis qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Comme la relation s'établit et qu'il reconnaît qu'il y a eu des démêlés avec la justice, il fait la rencontre de l'agent des services correctionnels, en fait des libérations conditionnelles, qui lui dit que, finalement, c'est une bonne personne qui avait eu des problèmes mineurs, sauf qu'il y a un historique de violence qui a été, d'après la témoin, minimisé. Tout ça pour vous dire que ça a complètement dégénéré, qu'il a pris le contrôle, comme on voit très souvent, puis qu'elle, après avoir été isolée, battue, violée, a fait comme une liste de ce qu'elle vivait sur le site de SOS Violence Conjugale pour dire « Hey, je vis ça, puis là, je dénonce ». Et elle partage ça ce matin publiquement pour inciter d'autres femmes à parler. Mais quand vous lisez ce texte de Tristan Péloquin, je dois dire que c'est assez saisissant. Bon, la vaccination, on va essayer de dire les choses simplement ce matin. D'abord, on intègre aujourd'hui les 40-45 ans. Et comme à chaque fois qu'un nouveau groupe arrive, il y a beaucoup de demandes de la part de ce groupe d'âge fraîchement ajouté. Donc, depuis hier, je sais que les gens réservent et la vaccination se passe bien. Les groupes, les premiers qui ont été ciblés dans la vaccination, on dépasse le 75 %, ce qui est très bien. On sait par contre que plus on va vers des groupes plus jeunes, plus c'est difficile de convaincre. Et ce qu'on nous a dit hier, en résumé, vous voulez avoir un été un peu normal, retrouver un certain nombre de libertés, faites-vous vacciner. Plus nous serons nombreux, plus on va être capable de lever les mesures de restriction. Et là, c'est comme si on voyait apparaître la possibilité de se retrouver sur une terrasse avec des amis, de recevoir des gens peut-être dans un premier temps à l'extérieur, de peut-être aller finalement au resto. Toutes ces libertés, tous ces plaisirs dont on est privé, ben on va nous les retransmettre dans la mesure où nous sommes vaccinés. Puis c'est pas là un caprice, on n'est pas... C'est une réalité mondiale. Tous les pays, je regardais aux États-Unis, là, 50 % des gens ont déjà reçu une ou deux doses. Puis là, il y en arrache à faire vacciner, puis même à convaincre les gens d'avoir leur deuxième dose. Mais on voit que on déconfine. Et que c'est ça le prix, si on veut, entre guillemets, du déconfinement, c'est une vaccination massive. Je pense que le gouvernement aurait aussi intérêt à être plus précis puis à donner des dates aux restaurateurs, aux propriétaires de gym. Je comprends là, qu'il y a différents critères. J'écoutais le docteur Arruda hier qui dit « Ouais, mais là, il faut tenir compte, peut-être que si on a d'autres variants, puis peut-être que si, puis bon. » Très bien. Mais ça serait, je pense, opportun d'avoir comme une cible en quelque part, là. T'sais, parce que hier, on parlait de quelques semaines. Là. Est-ce qu'on va devancer l'objectif de la vaccination au début juin? C'est quand même assez vite. Là. On est le 5 mai aujourd'hui. Puis c'est un blitz qu'il faut faire de vaccination. Et ça demeure un choix personnel. Là où c'est venu un peu se gâter au sujet des vaccins, d'abord, on a un deuxième cas de décès relié à AstraZeneca en Alberta cette fois. C'est l'avis qui a été fourni par ce fameux comité consultatif national de l'immunisation. Alors, ils ont dit dans un avis que certains vaccins étaient préférables à d'autres. Il y avait un classement un peu de vaccins. Puis là, on nous dit, oui, mais ça dépend de l'état, de l'endroit où vous êtes. Il y a quelques semaines, l'AstraZeneca, c'était opportun parce qu'il y avait plus d'avantages que de risques. Là, on en a moins besoin. On a assez de Pfizer. Là, on va envoyer des AstraZeneca en Alberta. Voici ce que disait le docteur Carl Weiss hier au sujet, justement, de ses analyses, de ses avis concernant pardon, les différents vaccins.
Comité canadien, après, je vous dirais beaucoup de, on va dire, d'hésitation, etc., s'est clairement positionné pour dire que d'abord, les vaccins ARN devraient être les priorisés et que les autres vaccins devraient être donnés dans certaines circonstances. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le donner aux gens de plus de 30 ans, mais après avoir répondu à un ensemble de critères, c'est-à-dire de les avoir bien informés, de leur avoir dit que s'ils veulent attendre pour un vaccin ARN messager, qu'ils peuvent attendre en fonction de... Donc, il faut lire tout le verbiage de la mise à jour et que idéalement il faudrait peut-être le favoriser, comme c'est seulement une dose, le vaccin de Johnson & Johnson, peut-être pour des populations qui sont difficilement rejoignables.
Quand on veut décortiquer, disons, le vocabulaire de ce comité, puis c'est très clair, à partir d'hier, si on veut, ou depuis quelques jours, il n'y a pas de raison d'avoir le AstraZeneca, à moins que vous souhaitiez l'avoir aussi. Ça, et c'est un élément clé de la vaccination. Un, c'est libre. Plus on sera vacciné, mieux c'est collectivement. Mais individuellement, c'est une décision qui vous appartient. Puis vous en parlez avec votre médecin, vous en parlez avec vos proches, puis vous prenez votre décision. Puis je connais plein de gens, moi, qui ont décidé d'attendre une semaine, deux semaines, parce qu'ils ne voulaient pas avoir AstraZeneca. Par contre, on le sait qu'AstraZeneca, il y a un risque, mais le risque est quand même minime, même s'il y a eu des complications plus que d'autres. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu de confusion sur les vaccins, mais là, l'arrivage de Pfizer et de Moderna nous assure de doses quand même importantes. Puis il y a toute la question de la vaccination des ados aussi, qui va être précisée. La première dose, à quel moment, surtout ceux et celles qui vont travailler dans des camps, qui ont des activités de groupe, et pour préparer la rentrée scolaire, on pense surtout au secondaire. En résumé, donc, la clé, on insiste, c'est la vaccination. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est les 40-45 ans. Et tant mieux si on peut se retrouver avec des libertés le plus vite possible, parce qu'on en a tous besoin. Puis on avait des sondages ce matin qui montrent que les gens, ce qui priorisent, ce sont des rassemblements. Pas des grandes foules, mais l'idée de se retrouver avec des amis, avec les membres de la famille, partager un repas, partager des moments agréables, c'est ça qui nous fait pas mal carburer. Toujours en marge peut-être de l'opération vaccination, là, il y a ce dont je vous parlais dans The Gazette ce matin et aussi dans la presse. Il y a des secteurs, et Parc Extension en est un, où c'est très difficile de joindre les gens. À la blague un peu, je disais tantôt qu'il y a des pays où, pour attirer des jeunes, il y a des primes qui sont données, des cadeaux, des prix de présence, comme ça, là. Des choix musicaux, la présence d'artistes, de vedettes locales qui vont dans des centres. Ils déploient tout ce qu'ils peuvent pour attirer des gens. Et dans Parc Extension, où on a plusieurs communautés, plusieurs groupes, des gens qui parlent ni français ni anglais, bien, on vaccine un peu partout, on vaccine dans des mosquées, il y a des groupes qui font le tour des quartiers, des espèces de petites équipes qui vont cogner aux portes puis qui rappellent aux gens ben, qu'ils peuvent, s'ils ont des symptômes, non seulement qu'ils peuvent, mais qu'ils doivent se faire tester puis se faire vacciner. Alors, c'est quand même intéressant. Donc, ça fait le tour pas mal pour ce qui est de la vaccination. Et si je peux compléter, j'ai vu hier les avis qui ont été rendus publics du docteur Arruda. Il n'y a pas d'immense contradiction là, entre ce que Arruda recommandait puisque le gouvernement du Québec a pris comme décision. Là, il y a eu des ajustements. Mais le directeur de la santé publique a décidé, disons, d'écouter les leaders de différentes communautés religieuses à l'occasion des fêtes du mois d'avril. Alors, dans un document daté du 23 mars, on peut lire qu'il prend en considération l'arrivée prochaine d'une période importante pour la majorité des croyants. Alors, ça peut être la Pâque juive, le dimanche des Rameaux, vendredi saint, il y a une fête hindoue également, Pâques. Alors, il trouvait, lui, qu'à la base, faire des assouplissements avec les variants, puis il faut reculer dans le temps, là, puis se replacer dans le contexte, c'était pas nécessairement une bonne idée, puis que ça représentait un risque. Mais finalement, il a cédé sous la pression des leaders religieux. Je trouve ça bien difficile à comprendre à chaque fois, là, en respectant les croyances des uns et des autres. Mais est-ce qu'on a besoin de faire des entorses à des règles sanitaires pour des raisons religieuses? De passer, là, peu importe la confessionnalité, peu importe les croyances, et pourquoi? Pour éviter que des gens soient dissidents, que des gens refusent de se soumettre aux règles, qui d'ailleurs, en passant, selon le dernier sondage, là, les Québécois majoritairement continuent de suivre les règles. T'sais, on a eu cette manif en fin de semaine, mais pour l'essentiel, il y a encore une bonne adhésion. Je vous dirais que, à mon humble avis, ça demeure fragile. C'est pour ça que ça prend pas juste les phrases classiques du « la lumière au bout du tunnel », ça prend quelque chose. Là. On est le 5 mai, là. Donnez-nous c'est quoi vos critères précis, là. Parce que le problème en point de presse, souvent, c'est que c'est flou. Puis là, je comprends la notion de balance, d'équilibre, puis là, ça va dépendre des hôpitaux, ça va dépendre des variants. Les Québécois, ils comprennent ça, là, mais les Québécois, ce qu'ils veulent surtout, là, c'est dire « Hey, fin mai, là, on peut-tu commencer à rêver un peu? » Puis pas l'idée, c'est pas de promettre pour être déçu. L'idée, c'est pour se motiver, probablement aussi, motiver des gens qui sont peut-être hésitants. Alors voilà pour le dossier COVID. Maintenant, parlons de la ministre Marie-Ève Proulx. On a finalement appris que hier, elle a été démissionnée. On va arrêter de faire semblant, là. C'est quand le PM te convoque quand t'es dans une tourmente, là, puis que la réponse de la journée officielle, c'est d'un commun accord, là. On sait très bien, là. T'sais, ta lettre de démission, elle est écrite, veux-tu la signer, puis après ça, t'en aller. Mais entre vous et moi, là, M. Legault s'en sort assez bien hier. Là. Ça n'a pas été bébé dur à passer à la période de presse. Là. Ça fait plus d'un an que le bureau du PM est au courant, puis probablement avant des problèmes de comportement de Marie-Ève Proulx, à un point tel qu'on lui a embauché un coach de vie pour lui apprendre à gérer le monde. C'est quelqu'un qui a multiplié les cas de départ, de dépression, de congédiement, 10, 15, 20. Et je ne suis pas certain que si Bernard Drainville n'en avait pas parlé, l'histoire se serait réglée. C'était comme sous le radar. C'était le genre de truc, tout le monde est au courant, qu'elle n'est pas du monde, qu'elle gère tout croche, qu'elle rend le monde complètement dingue, qu'elle a un problème de gestion de ses émotions. Puis le bureau du PM tolère ça pendant plus d'un an, puis avec toujours le même discours, tolérance zéro. Puis là, hier, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est trop toxique pour être ministre, mais pas assez pour être député caquiste. T'expliqueras ça, toi, une fois que tu as prôné la tolérance zéro. Parle pas d'un cas, d'un incident ou deux ou trois. On parle d'un cancer dans un ministère et de gens qui parlent. Puis les gens qui l'ont connu, personne n'est étonné de ça. Moi, je me souviens d'un député caquiste qui a enfreint une règle sanitaire puis qui a été expulsé du caucus. Il fallait donner l'exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on protège Marie-Ève Proulx? Puis que là, on va l'accompagner encore dans sa gestion du bureau de comté. Sérieux? Es-tu quelqu'un qui est vraiment convaincu de ça? Et je vous le dis des fois, là, M. Legault est très bon pour éviter la chaleur. parce que c'est le genre de cas qui, normalement, aurait dû lui rebondir dans le visage pas mal plus vite, puis avec pas mal plus d'intensité. C'est quoi? C'est tolérance zéro? Comment ça se fait qu'elle est encore caquiste? Parce que c'est une militante de longue date? Parce qu'on ne veut pas avoir l'air d'avoir des préjugés contre les femmes qui ont été tassées du Conseil des ministres? Avouez que c'est quand même assez, assez sérieux. D'autre part, dans Le Devoir ce matin, on revient sur l'état de détresse psychologique du réseau de la santé. Quand vous regardez la situation, là, à peu près 80 % des cas de détresse dans le réseau sont reliés au milieu de travail. Il y a d'autres facteurs dans la vie qui font qu'on est anxieux, déprimé. Et un employé sur deux vit de la détresse, pandémie, pénurie de main-d'œuvre. Puis là, si vous êtes dans le réseau, vous connaissez le parcours, là. C'est-à-dire le temps supplémentaire obligatoire, ce qui mine le travail des troupes. 48 % des employés du réseau de la santé disent ressentir un niveau de détresse élevé ou très élevé. Également, on remarque que, puis c'est pas une surprise, là, qu'avec la deuxième, puis maintenant la troisième vague, ce niveau de pression a augmenté. Puis je lis beaucoup de courriels, puis je lis vos commentaires, puis on comprend ce que vivent les gens, là. C'est un stress personnel, c'est un stress familial, puis tu vois des situations, puis t'es un peu outré, avec raison, de voir des gens manifester comme samedi dernier leur mépris face aux gens de la santé qui sauvent des vies. T'sais, ça ne vient pas aider nécessairement. Mais quand on dit que ce n'est pas juste une question de salaire dans le réseau de la santé, puis ailleurs aussi, c'est une question aussi de conditions de travail. Donc, vous pouvez lire ça ce matin. Le ministre Lionel Carman sera avec nous pour parler des suites du rapport de Régine Laurent. Et je voudrais partager avec vous ce matin deux courriels rapides qui résument assez bien. Je reçois des courriels hier de parents qui me disent « C'est bien beau la réforme de Régine Laurent, mais nous sommes victimes d'abus de la DPJ. » Puis quand la DPJ entre dans ta vie, c'est pas une bonne nouvelle. Puis des fois, c'est compliqué d'en sortir. Et c'est là qu'on voit que c'est très fragile. Puis je lis les courriels, là, puis à chaque fois, je me dis « Et puis l'enfant, il en pense quoi, là? » nonobstant son âge, de ces adultes qui se pognent autour de lui, supposément pour son mieux-être. Puis je comprends des parents, puis des fois c'est des cas de séparation, puis la DPJ est utilisée par un des deux parents dans des conflits de garde d'enfants, puis là j'ai pas le droit de voir mon enfant. Puis d'un autre côté, c'est une femme qui vaste expérience, qui m'écrit dans le réseau de la santé. Elle a obtenu un poste à la DPJ. Et son mandat, c'était d'aller dans les familles. Elle quitte là parce qu'elle a décidé de faire autre chose. Mais elle dit, « Monsieur Arcan, elle dit, ma job, pour vous résumer ça, là, c'est d'aider les parents à apprendre à faire l'épicerie, comment cuisiner des repas faciles et nutritifs, comment établir une routine de vie pour les enfants, faire du désencombrement dans les maisons. Ça a été pas mal ça, mon travail. T'arrives dans des milieux insalubres, des familles où il y a eu des signalements depuis le premier enfant. On est rendu à 3, 4, 5 enfants. Ils n'ont jamais perdu la garde. On s'entête à essayer de faire des plans qui ne fonctionnent pas. Des enfants qui se nourrissent mal, qui prennent des espèces de bouteilles d'ensure parce que les parents pensent que c'est un repas complet. Un enfant de 7 ans qui ne mange pas la moitié de son sandwich à l'école parce qu'il a besoin de l'autre moitié pour le souper. Voyez un peu ce que... Et là, elle se dit, mais comment ça se fait qu'à travers les piles de linge sale, les boîtes de pizza vides, puis on ne parle même pas de la supervision, que ces enfants-là n'ont pas ce parcours de vie. Puis c'est ce qui se dégage. Fait que d'un côté, tu as des parents qui sentent des abus de la DPJ, puis de l'autre, tu as des intervenantes qui regardent ça, puis disent, mais comment ça se fait qu'on n'a pas établi un plan de vie à long terme pour ces enfants-là, pour qui c'est l'horreur, puis que c'est toujours à recommencer. Alors, on va vous en parler ce matin. Puis je termine sur le cas d'un pédophile qui est dans le journal de Montréal. C'est un cas là, qui traîne depuis un certain temps. Mais la poursuite a demandé 15 ans de prison. Et heureusement, à un psycho-éducateur qui a ramené une petite fille d'Afrique, une petite fille de 8 ans, pour en faire son esclave sexuelle. Et paraît-il qu'en échange, la mère recevait de l'eau potable. Voyez un peu le genre d'ordure, de déchets, là. Alors, M. Villemer, et là je cite le Journal de Montréal ce matin, a dit quand la couronne a demandé 10 à 15 ans, il dit « c'est comme si j'avais tué quelqu'un ». Excuse-moi, là. T'as abusé pendant des années d'une petite fille, t'en as fait une esclave. Alors, c'est clair qu'il n'y a aucun remords. Qui est... De toute façon, ces gens-là n'ont aucun problème à abuser d'enfants. C'est normal, c'est une question d'époque. Ils ont des pulsions, ils font découvrir de façon bienveillante la sexualité aux enfants, fait que c'est correct. Et ce gars-là, en plus, était un psycho-éducateur. Il a été libéré. En fait, on attend de voir la sentence, là. Mais et je sais que Maître Amélie Rivard, qui demande cette peine exemplaire et expérimentée dans ces dossiers-là, et on souhaite qu'il ramasse la totale en prison avec l'étiquette du plus grand déchet, là, de délinquant, je dirais, sexuel à ne jamais laisser sortir. C'est un peu la catégorie que j'ajouterais. 6h23. Autoroute des Laurentides.